Quelques mots. D'abord, je voulais remercier M. Ray parce que sa présentation était très claire, exhaustive, et qu'elle en est que plus intéressante. Et je voulais aussi remercier le cabinet Sedon, que je connais par ailleurs. Qui a travaillé avec nous sur la gestion active de la dette, et qui d'ailleurs nous a été à l'époque de très bons conseils. Donc je t'en profite. Deux petites choses quand même sur la situation financière et quelques éléments. D'abord, c'est vrai que le coup de massue de la crise financière de 2008 a eu des effets qui sont des effets cumulés. Hein. Enfin, on ne peut pas passer au travers, parce que c'est quelque chose qui a été important. Alors, ça a eu à la fois un impact sur les conditions de l'endettement. Mais il ne faut pas oublier que l'espèce de panique qui s'est emparée de la totalité des gouvernements des pays riches en particulier, qui ont été affectés et qui se sont trouvés face à une crise qui s'apparentait à la crise de 1929, avec tout le spectre qu'il y avait derrière, a fait que les États se sont empressés de recapitaliser à outrance les banques. Ils l'ont fait avec des liquidités, ce qui nous a fait perdre au passage des centaines de milliards. Hein, il faut se souvenir de ça. Et dans un autre domaine, la panique a été aussi de voir cette crise financière se transformer en crise économique rapide. On sait que ça a provoqué un ralentissement sur le long terme, de toute façon, mais une crise économique rapide. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des collectivités? Moi, je m'en souviens très bien. Il y a eu des... Je ne dis pas des consignes, mais des invitations de l'État et des services de l'État pour que les collectivités, non seulement investissent, mais aillent plus loin et plus vite dans l'investissement pour soutenir l'activité économique. Donc, ce qui a un effet cumulé.
Le remboursement de la TVA à l'année suivante a lieu d'attendre 2 ans.
C'est ça. Ça a été ça. Et ça a été donc une politique d'incitation qui s'apparente un peu à un moment donné à ce qu'on avait pu observer. Je parle là de périodes plus anciennes, dans les années 80-90, on avait poussé certains pays à s'endetter énormément dans la même optique. Et en soutenant l'activité économique, on a poussé effectivement à l'endettement. Maintenant, je dirais que Lourdes n'est pas... c'est une ville comme une autre, à un moment donné... Les réalités qui étaient celles de la ville de Lourdes, les besoins en termes d'investissement et les travaux qui ont été faits d'ailleurs, puisque ces investissements se traduisent par des travaux, ont été financés effectivement par une part de l'emprunt important. Que cette baisse en sifflet de la capacité d'autofinancement soit réelle, moi je n'en doute pas. Hein, et je voudrais simplement dire une chose. Qui a l'air banal comme ça, mais bon, je le dis parce que je l'ai vécu, chacun d'entre vous le vivra, on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qui est proposé et préconisé ou même adopté. Mais on fait partie d'un groupe, on fait partie d'une majorité, et effectivement, vous le verrez, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas tous d'accord, mais en fait, vous le faites parce que la majorité d'entre vous est d'accord. Ce qui signifie qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on ne peut pas, enfin, moi je ne me permettrai pas d'endosser la responsabilité totale de ce qui est aujourd'hui une réalité, simplement pour dire que la part du budget de fonctionnement, c'est juste un titre indicatif sur les emplois dont je me souviens. Ce sont quand même les emplois 2012 qui ont participé à la création du service de sécurité de police municipale, pour lesquels il y a eu, si ma mémoire est bonne, c'était 4 emplois, plus les 6 emplois d'agents de sécurité qui ont fait partie de ces ASVP. Donc effectivement, ça a représenté une charge. C'était, je pense, à un moment donné, une nécessité. Je pense que c'est un service qui est non seulement nécessaire, mais qui devient de plus en plus indispensable. Donc, je pense pas que ça soit là où se situe le cœur de la difficulté, mais incontestablement, je dis bien incontestablement, et moi je l'avais envisagé comme ça, la capacité aujourd'hui, qui est une capacité d'autofinancement, ne peut venir que de la compression des dépenses de fonctionnement. Et c'est la compression des dépenses de fonctionnement qui donnera à la ville une des capacités en termes programmatiques. J'ajoute que ça a été dit par M. Ray, bon, la pression fiscale a ses limites, et Dieu sait si on a été loin sur cette pression fiscale, et je ne parle pas forcément de la collectivité, mais de l'État en général, et que ça a des limites. Et que de l'autre côté, je l'ai dit toutes les années où je me suis occupé de finances, l'État s'est déchargé sur les collectivités, et l'État n'a cessé de diminuer ses dotations auprès des collectivités. Et je l'ai dit à chaque fois. Et je me suis retrouvé toujours confronté, j'espère que ça ne sera pas votre cas, à un mur concernant ces dotations et concernant aussi la surévaluation que l'on fait de la ville de Lourdes par rapport à son classement qui lui est extrêmement pénalisant sur le plan de ces mêmes dotations. Juste, pardon, c'est parce que ça me revient. Il y a les budgets annexes, simplement le budget de l'eau, le budget d'assainissement, sont des budgets qui sont financés par la taxe. Et ce budget assainissement est un budget qui est, et qui m'a semblé, et que j'observe d'année en année, comme un budget très lourd. Il est très lourd. Alors, les conditions, qui sont les conditions nécessaires aux travaux pour l'assainissement, pour la régulation, on l'a vu par rapport aux accidents de crue ou même à des caractéristiques d'intempéries qui sont des intempéries orageuses, font qu'il faut investir, mais j'ai toujours pensé quand même que c'était beaucoup. Je reste aujourd'hui certain que c'est beau.
D'abord, Michel, je voulais te remercier d'être parmi nous, parce que c'est de là que quand même responsabilité, ce qui n'est pas le cas de M. Artigana, qui, comme tout le monde peut le constater ce soir, a préféré déserter et nous envoyer ses pensées à travers la presse, ce qui n'est pas très courageux et pas très responsable. Ensuite, c'est gentil de nous faire... de nous donner des conseils, mais bon, on s'en passera vu les résultats que nous venons d'apprécier, parce que ce n'est plus le cas de nous faire la leçon. Quand on voit l'épargne nette qui a fondu jusqu'à moins 1,9 million d'euros, le fonds de roulement, vous avez mangé quand même 3 millions d'euros, je ne sais pas s'il faut encore donner des conseils. Vous étiez en top 14, maintenant on est en fédéral 3 et peut-être même encore plus bas. Donc, je ne sais pas si ces conseils que tu nous donnes sont encore de bons conseils. C'est vrai que l'eau, tu le signales, est très élevée, parce qu'en fait, vous avez utilisé le budget de l'eau pour faire les compensations au niveau du fonctionnement. Là encore, je me souviens de toutes les difficultés que nous avions pour avoir des chiffres, et moi, je suis fier ce soir de voir la présentation qui est faite là en toute transparence et clarté. Alors qu'à chaque fois que nous voulions avoir des éléments, eh bien nous avions de l'opacité, nous l'avons à maintes reprises évoqué à quel point vous cachiez les chiffres et les actions. Aujourd'hui, on y voit plus clair et le bilan est vraiment désastreux.
C'est qu'il y a une action en justice contre la malfaçon, la station d'épuration, qui a été déclenchée une garantie d'ouvrage qui a été déclenchée in extremis, parce que sinon encore, c'était la ville de Lourdes qui s'inquiétait toutes les malfaçons. Après le financement de la station d'épuration, comme ça, elle est payée, me semble, ça fait. Elle est payée. Pourquoi? Vous savez qu'elle était payée dans un moment. En attendant, nous avons tâché heureusement que. Oui, je sais, oui, heureusement qu'à la dernière année, depuis le pitouage, nous avons la ville de l'eau, là, on a tâché. Pourquoi? On a tâché la
la flamme pénale. Quelle est cette volonté de bien et une homme plus rien me repayait, t'as comme des autres. Il n'a plus rien, il y a des moments où il faut faire les salaires de la vie.
Donc, c'est ça.
Et bien,
je voulais préciser par rapport à l'intervention de Michel Azot, que je salue sur son sens de la responsabilité et par le fait qu'il ait essayé de tenter de trouver des explications. Je viens d'entendre l'explication que les collectivités étaient incitées effectivement pour, en situation de début de crise, de maintenir des investissements parce que ça peut pas briser l'emploi. C'est une chose importante. Néanmoins, quand on regarde l'historique, le petit graphique que présentait M. Rey sur l'investissement, on note quand même une envolée d'investissements en 2013 qui n'est pas liée au CRU. Il y a une envolée la dernière année, je pense certainement due à l'affolement, mais qui a engagé des dépenses d'investissement au-delà des capacités. Le maire parlera peut-être de la piscine après, dans ce qui était prévu, ce qui a été lancé, mais c'est du même. C'est mener une politique sans s'assurer des moyens que l'on peut avoir et en aujourd'hui en laissant les caisses vides. Parce que le résultat, tel que l'a présenté M. Rébarou, c'est que la situation, nous avons des caisses vides. Il va falloir tout reprendre pour dégager des marges d'épargne et de nouveaux produits pour pouvoir mener des projets et assainir la situation et rembourser ce que nous avons. Quand vous dites, Michel, effectivement, un des axes va se porter sur l'amélioration des dépenses de fonctionnement, oui, bien sûr, vous avez raison, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi votre précédent conseil municipal ne l'a pas fait? 1 600 000 de dépenses en plus du personnel, par exemple, je ne vais pas vous souvenir le chiffre, mais bon, c'est quand même colossal. Donc, contrairement à ce qui est dit dans la presse, à ce que médiatiquement l'opposition essaie de faire colporter en essayant de mettre en exergue, malheureusement, je disais malheureusement, la hausse d'impôts que nous avons dû prendre face à cette situation dramatique qui est aujourd'hui décrite et attestée par l'exposé qui nous a été fait. Mais donc, je souhaite quand même, Bruno Vignolès l'a dit aussi, mais je souhaite quand même vous énumérer les taux d'augmentation d'impôts qui ont été faits sur le précédent mandat. Donc 2009, augmentation d'impôts 4 points. 2010, augmentation d'impôts 2 points. 2011, augmentation d'impôts 2 points. 2012, augmentation d'impôts 2 points. Si on accumule tout ça, ce sont 10 points d'augmentation d'impôts. Donc, moi je veux bien que l'opposition se lance dans une guerre médiatique d'acharnement pour essayer de marteler la nouvelle municipalité, etc. Mais vraiment, vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas oublier sa mémoire et au moins affirmer et assumer sa responsabilité quand on est responsable de la situation qui a été décrite ce soir par M.
Michel.
Oui, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je fais partie d'une ancienne équipe. Il y a des choses sur lesquelles chacun d'entre nous a pu avoir des positions. Je ne peux pas m'étaler là-dessus, mais il est évident qu'à un moment donné, confronté à des réalités qui sont financières, j'ai pu avoir des positions qui étaient, disons, plus nuancées. Il n'en demeure pas moins que, bon, ce qui a été fait, et que, de toute façon, c'est une réalité. Ça a été déterminé par rapport à des choix, ces choix ont été importants. Sur la fiscalité, nous ne sommes pas, d'accord, moi pour ma part, je ne suis pas partisan de fiscalité qui serait constamment égale à zéro, parce que ça c'est un bon sens. Ce que je veux dire, qu'après ça,
de ne pas anticiper les baisses de dotation de l'État en restant avec une très bas d'augmentation, tout en augmentant quand même. Et pas suffisamment, c'était une erreur.
C'est pas.
Mais je vous dis aujourd'hui, dans la
position. C'est pourtant ce que vous dites dans la presse. Hein. C'est pourtant ce que vous dites dans la presse. Alors, ce que je dis, c'est qu'il y a des situations qui sont des situations ponctuelles. Et je dis qu'aujourd'hui, on est dans une situation de pression. Et cette pression, et c'est pour ça que je dis que c'est pas seulement les collectivités. Les collectivités, elles sont en bout de chaîne. Malheureusement, non seulement elles sont en bout de chaîne, mais elles sont quelque part bouclées misères parce qu'elles sont confrontées à la réalité immédiate du citoyen qui, lui, n'en a pas. Enfin, sa fiscalité, la lourdeur de la fiscalité, elle se perçoit depuis le sommet de l'État jusqu'en bas. Et c'est en bas que le contact. C'est pour ça que c'est plus un cumul de situations qui fait que la lourdeur de la fiscalité, la pression de la fiscalité devient tolérable. Il faut faire attention avec la pression de la fiscalité parce que autant l'impôt fait partie inhérente du devoir du citoyen, autant il peut devenir à ce point insupportable qu'il peut susciter même le rejet, et un rejet qui est un rejet dramatique sur le plan politique et dramatique sur le plan démocratique. C'est pour ça que je dis qu'il faut être non seulement modéré, mais bien observer les choses. C'est pour ça aussi que je reste. C'est pour ça que quand je parle de diminution du budget de fonctionnement, je pense que le levier. Absolument. C'est pour ça que je suis en accord total avec une baisse du budget de fonctionnement. Je suis.
La pression fiscale ne peut pas augmenter davantage.
Je suis d'accord. Après, sur les hypothèses de recettes supplémentaires, je pense qu'on sera tous d'accord pour que les recettes supplémentaires, que le versement de transport soit initié, si l'économie de Lourdes peut le supporter, je dis qu'il n'y a pas de raison. Moi, je ne suis pas certain que la taxe spéciale pour les entreprises sur les déchets rapporte plus que la TOM, je n'en suis pas certain. Parce que moi, les calculs que j'avais faits.
C'est spécial sur l'allègement des engrais
de la charge. La redevance, c'est la redevance.
Mais elle est obligatoire.
Je ne suis pas certain qu'elle ait un produit supérieur. Si, je ne suis pas sûr qu'elle ait un produit supérieur.
Par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, la pression fiscale doit être mesurée, on en est convaincu, et si on avait pu se passer de l'augmentation d'impôts, vous pouvez nous croire, nous l'aurions fait. Mais nous avons été contraints par cette situation, malheureusement, devant la situation dramatique financière dans laquelle nous nous sommes trouvés. Mais par contre, là où je trouve que l'opposition, par rapport à cet affichage contre la pression fiscale, etc., n'est pas juste, c'est qu'en fait, l'équilibre budgétaire, c'est fait, comme l'a dit Bruno Vignolès tout à l'heure, c'est fait sur les budgets, l'assainissement. Qui est-ce qui paye l'eau et l'assainissement? Ce sont les contribuables. Ce sont les lourdes. Donc on va afficher des actes de non-augmentation d'impôts, donc on va dire ça, et de l'autre côté, on va prendre de l'autre main sur l'eau et l'assainissement chez les lourdes pour qu'ils paient et qu'ils comblent l'équilibre budgétaire. C'est pas correct. Vraiment, c'est de l'hypocrisie. Ça a été de l'hypocrisie. C'est un jeu de dupes. Je pense qu'on a trompé les Lourdes avec ce type de discours-là. Parce que l'argent, vous l'avez trouvé chez les Lourdes. Et ça, ce n'est pas correct.
Pendant ces quelques années dans l'opposition, on a eu le sexe, je crois, quand même, de vouloir dénoncer les mensonges du maire. Et l'article qu'on a pu lire ce matin, quand même, a été une brillante illustration. Quand on se permet de dire aux Lourdes que tout va bien avec les Lourdes parce que les budgets sont équilibrés, Michel, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une obligation. Je pense que vous avez vu Michel Rigolot, à une époque, vous disiez que le Jean-Pierre était le meilleur maire pour la ville de Lourdes. Quand j'entends qu'il prétend ne pas connaître le cabinet qui gérait la dette, c'est formidable qu'en un seul article, il s'est révélé aujourd'hui comme un grand menteur, un grand manipulateur, et qu'on a essayé de dénoncer pendant des années et des années. On n'avait pas le chiffre, on nous trompait, on a été capable jusqu'à dire des mauvaises choses. Je vais juste finir par quelque chose. Hein. Vous revenez sans arrêt sur des choses que vous avez prouvées en début de ce conseil municipal. Savez-vous, M. Rigolo, le nombre de véhicules que votre grand-mère de Lourdes a acheté le dernier mandat? Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. En début de mandat, il avait acheté une Renault Mégane intérieure cuir qu'il avait donnée à son DIRCAB qui avait fait le tampon entre une crampe et M. Lavaudère. Je vous l'ai dit, Renault Mégane. Ensuite, il s'est acheté un très beau Koleos 4x4 qu'il a donné après à M. Serge Lavaudère comme véhicule de fonction. Et puis, dans ce mandat, il s'est acheté un 3008 hybride. Vous garderez le prix du véhicule. Alors, avant de donner des leçons, vous avez trois véhicules là. Je vous prie d'aller regarder le coût qu'a coûté ces véhicules à la collectivité. Une Mégane intérieure cuir, un Koleos 4x4 tout cuir avec GPS, et ensuite une 3008 hybride toute option. Alors je voudrais qu'avant que vous fassiez des remarques, un peu que vous balayiez devant votre porte.
Monsieur Hans.
Oui, d'abord mes remerciements du surveil pour ce travail qui était particulièrement pédagogique et clair, c'est vrai. Remerciements également à madame, à Vincenzo, pour votre présence. J'avais des questions ce soir à poser à monsieur Artigana, il n'est malheureusement pas là. J'ai eu en partie certaines réponses par monsieur Azo. Donc il faut louer le courage et la responsabilité d'être là comme élu ce soir, même si je considère que c'est tout à fait normal. Mais au moins, vous êtes présent et c'est bien parce qu'effectivement, en charge des finances de l'ancienne municipalité, vous avez effectivement eu connaissance de cette comptabilité désastreuse et ça a été dit à l'entreprise et je l'avais dénoncé durant la campagne municipale. Donc je ne vais pas vous accabler davantage. Différents points ont été repris par M. Capel, par M. Guimbalès et par d'autres. Donc là encore, je ne vais pas les reprendre davantage. Vous connaissez ma philosophie et ma façon d'être depuis le début de cette mandature. Je ne suis pas là pour faire l'opposition négative et systématique. Bien au contraire, je souhaite qu'on avance et que les 6 années qui viennent soient véritablement 6 années constructives pour les Lourdaises et les Lourdaises. Comme je dis souvent aux uns et aux autres, à ceux qui veulent bien entendre, il y a le temps de la campagne électorale. Ce temps est définitivement révolu, il est 8 mois derrière nous. Les prochaines élections municipales seront en 2020. Nous avons donc largement le temps de nous préparer pour cette autre échéance qui viendra en temps utile. Mais ne mélangeons pas tout et faisons maximum pour que dans 6 ans, et quelle que soit l'étiquette politique de celles et ceux qui sont en place aujourd'hui, nous pouvons dire, et moi à mon modeste niveau, si je puis dire, élu municipal et communautaire d'opposition, nous pouvons dire, ben voilà, ça, ça, ça et ça ont été réalisés, et pour les Lourdaises et les Lourdais, nous pouvons en être fiers. C'est pour ça que, dans ce sens, et je reprendrai juste, bon, c'est une petite observation, mais n'y voyez pas polémique, monsieur Capel. Je veux dire que quand vous parlez de l'opposition, il y a 7 élus d'un côté et il y en a un autre, qui est moi, de l'autre côté. Et
dans l'opposition.
Ne me mélangez pas dans mes observations à ce que mes collègues disent forcément, parce que je n'y adhère pas toujours. Et ça, c'est le premier point, il paraît important. Et c'est durant les points, il paraît important. Et ensuite, le second point, j'aimerais finir, M. Supercade. Le second point qui paraît tout aussi important, c'est que je n'étais pas aux manettes dans les précédentes municipalités, donc je n'assume absolument pas les décisions qui ont pu être prises à un moment donné. Je vous remercie.
Excusez-moi, M. Hensé, de vous recouper, mais ce soir, je crois qu'au Pétain, il n'y a pas 2 oppositions, mais bien 3 oppositions. Merci, M.
Oui, juste une petite remarque concernant les. Pour M. Suvercaz, les derniers propos, je laisserai M. Artigana, qui sera présent, et y répondre, parce qu'il aura certainement remarqué que je n'ai été ni maire, ni adjoint aux finances, ni partie prenante de la commission des finances. Et donc je crois que Michel Azot, ici présent, est mieux placé que moi, qui répondra à ces attaques.
Dans le même bateau. Dans le même bateau.
Donc, si vous voulez pour conclure, si ça vous dit. Peut-être au-delà de tout évidemment, les choix, et le jeu classique de la majorité opposée, je crois quand même qu'il serait honnête de reconnaître que l'eau est une ville qui se gère difficilement, avec très peu de marge de manœuvre financière. Nous avons aussi, ce que peut-être dans l'historique, il faudrait peut-être parler aussi de la perte de la taxe professionnelle. Il faudrait parler aussi de la création de la communauté de communes. Je crois que tout cela rentre aussi en ligne de compte des toutes les communes. Oui, bien sûr.
Mais aussi de ces jours aussi.
Peut-être changer les données de. Moi, ce que je regarde, moi, M. Soulardin, vous pardonnerez, mais je vais quand même me souvenir d'avoir connu une opposition souvent dans la circulation. Et je pense qu'on aurait proposé une simple rénovation de la piscine municipale.
Non, regarde, surtout pas ça. Mais surtout pas ne prends pas comme exemple la piscine municipale.
Et ça aussi, c'est pas faire des choses très, très difficiles.
Non, regarde, je t'en prie. Excuse-moi, hein, mais franchement, pas la piscine municipale. Souviens-toi du dernier plan d'art, mais de l'autre plan, où il y avait Grévalis, qui était le centre de la piscine municipale. Il faisait partie d'une commission. Ça fait des années que nous, l'opposition, on réclamait la piscine municipale. Et si tu veux, quand on voit ces frais de fonctionnement qui explosent, il y a dedans aussi les réparations sans critères de cette piscine. Combien ça a coûté pendant des années de remettre à niveau sans jamais atteindre un bon niveau pour cette piscine, un niveau digne. Et donc, non, franchement, je suis désolée, Marie-Ariette, mais l'exemple de la piscine, nous, si, moi je me souviens, 2008, il y a eu, après les élections, on a voté le budget. Et vous étiez là, vous vouliez augmenter les impôts en 2008. Vous les avez augmentés. Mais vous vous disiez, attendez, ils vont nous tomber dessus. Et moi, j'avais fait une intervention. Oui, je m'en souviens très bien. J'avais fait une intervention où j'avais dit, écoutez, nous ne vous attaquerons pas si vous augmentez les impôts, parce que nous savons que cette ville a besoin d'investissements, de grosses réparations dans les bâtiments, de refaire une piscine. Nous avions déjà fait tout le bilan de tout ce qu'il fallait faire en 2008. Déjà. Et je vous avais dit, nous voterons pour cette augmentation. Hein? Donc, et si vous aviez continué à tout doucement augmenter les impôts, mais les loupés, ils ne sont pas sots, ils ne sont pas fous. S'ils ont des réalisations en face, ils comprennent. Quand tu vois qu'aujourd'hui, dans le diagnostic de l'étude pro-tourisme, nous avons demandé une étude pour déterminer un nouveau message de la ville de Lourdes. Pour engager une nouvelle communication plus moderne entre la ville de Lourdes, l'office du tourisme et les sanctuaires, un message commun qui soit vraiment une communication moderne pour vous. Donc, la deuxième partie, et d'ailleurs, Artigana, lors du vote du budget de l'avenant au contrat grand site, l'a reconnu. Dans cette étude, il ressort que depuis 2009, nous avons perdu 650 000 unités. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on a pris la mesure dans laquelle NAS, on était en train de s'enfoncer? Non. Voilà. Donc, il y avait besoin d'investissement, il y avait besoin de choses à faire. Et oui, je suis désolée. Je suis vraiment désolée parce que c'est l'état de la ville de Lourdes aujourd'hui.
On est dans un contexte, je crois, qui a été largement souligné et qu'il ne faut pas ignorer non plus pour être honnête jusqu'au bout. Donc, écoutez, nous verrons. Vous avez fait des choix.
Oui, mais on verra. Voilà. On verra. Mais ce qu'on veut dire, c'est que la tâche ne va pas être facile.
Excusez-moi. Oui, c'est une question à vous. Vous assignez l'opposition qui vient de vous-même. C'est
Quand vous vous assimilez, vous en tant qu'ancienne opposition à M. Lavitte, je ne sais pas si vous aujourd'hui êtes ravi de cette association. En tout cas, aujourd'hui, excusez-moi, vous parlez que les Français.
Vous lui demanderez,
mais malheureusement pas ici. Les lourdés ne sont pas fous, ils comprennent les augmentations d'impôts quand il y a des choses en face.
Quand il y a des élus qui font du travail, dans l'opposition de la majorité, je le reconnais. Voilà. Et Thierry Lavitte a toujours bossé, et en particulier sur le dossier de la piscine, et les anciens élus de la majorité peuvent encore venir. Voilà, avec moi, et votre remarque est infondée et déplacée.
Donc les lourdés ne sont pas faits contre les augmentations d'impôts pour des réalisations.
Quand il y a des réalisations.
Quand il y a des réalisations en face. Donc dans les priorités de vos réalisations, sachant en plus qu'elles se vident, puisque vous êtes à le rappeler, vos priorités étaient l'eau de plage à 300 000 euros, les expos sur le pape, des 3 emplois à 70 000 euros, et un train de vie tel que nous l'avons annoncé, c'est ça que les lourdés vont comprendre dans l'augmentation des impôts. Ah, c'est un budget où il faut se serrer la ceinture, puisque c'est ce qui a été dit.
Il faut se serrer la ceinture du fait de qui ? Du fait de qui nous a mis dans une situation catastrophique, hein, avec en particulier une équipe qui devait connaître cette situation, je suppose, mais ça ne l'a pas empêché, début 2014, cette municipalité sortante d'engager juridiquement les travaux de la piscine. Pour 8 millions d'euros, sans autofinancement, ni subvention, ni engagement de la part des banques. C'était irresponsable et suicidaire, puisque la situation financière ne le permettait pas.
Sans vos notes.
Mais non, mais ça fait aussi des débats, comme les vôtres, pareil, les mêmes notes, l'héritage. Ah, et malheureusement, moi je vous ai laissé parler.
Excusez-moi, je vous en prie.
Donc l'héritage a et aura malheureusement aussi des effets sur notre mandature, notamment le déficit de la ZAC d'Anclade, qui fin 2014 sera un déficit de 1,4 million. Et oui, Michel, je suis désolée. Et 1,7 million fin 2015, les loyers non payés du budget annexe des activités industrielles, vous vous en êtes jamais inquiété, et non pris en charge financièrement malgré les relances du percepteur depuis 2011, 300 000 euros. Les déficits cumulés des budgets annexes du Golfe et du Pic du Gard, qui doivent s'équilibrer par leur tarification, oui, mais que seul le produit des impôts du contribuable lourdé permet de maintenir à flot ce tout. Le non-contrôle des finances du syndicat mixte du Haut-Akam, qui impactera le BP 2015 encore de 40 000 euros en plus que la participation prévue. Hein. Les embauches massives de personnel entre 2012 et 2013 avec plus de 900 000 euros de dépenses incompressibles. Donc je pense que, madame, vous n'avez pas trop de leçons à nous donner en soutenant l'équipe sortante. Vous voulez pouvoir passer aux délibérations du Conseil municipal. Oui, Michel.
Juste pour revenir sur cette réflexion de la ZAC,
c'est le seul
investissement foncier qui permettait aux loubrés de rester sur le territoire.
En attendant, c'est l'investissement foncier qui coûte très cher.
Les loubrés partent, comme le prenait lorsqu'il était dans l'opposition, M. Subertens, pour la fiscalité, les gens préfèrent construire ou bâtir dans les villages. Il a abondé dans ce sens sans arrêt. Le seul endroit à l'heure actuelle permettant aux loubrés de rester sur le territoire, c'est la plaine d'Anclade.
Au village d'arrêt.
Et malheureusement, c'est le seul endroit où il y a un équipement
qu'une
collectivité ne peut pas vivre sans contribuables. Chaque collectivité qui perd des contribuables,
laisse
aux autres l'addition beaucoup plus avancée. Si une collectivité veut vivre, il faut qu'elle ait des contribuables. Or, le seul endroit, la ville de Lourdes, c'est la plaine d'Anclade. Merci.
Vous êtes
vous avez parlé du train de vie tout à l'heure, mais le train, l'ancien train de vie, on peut en parler également. Vous pensez qu'il y a quand même un couleur qui fait quelques voyages, qui, elle, à la naissance, se trouvait présentée lorsqu'elle part à l'étranger, qui était une obligation. Et M. Artigan, la première fois, il est parti au Canada. Il nous a hérité d'un grand festival du mot qui nous a coûté les yeux de la tête, un grand concert de la solidarité qui nous a coûté les yeux de la tête. Mais vous voulez donner des leçons? Mais c'est incroyable. Vous voulez qu'on parle des voyages en Italie de M. Artigata? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Il a payé avec ses deniers, mais vous plaisantez. Il n'a même pas la décence de lui voler. Il est allé à Fatima combien de fois, M. Artigata, au frais de...
Est-ce que vous m'avez vu, moi, sur cette conférence de personnel? Je vous ai répondu tout à l'heure. Je n'étais ni maire, ni adjoint aux finances, ni partie prenante de la commission. Alors, c'est pas fait de l'insister là-dessus, je vous répondrai pas.
Bon. Alors, est-ce qu'il ne veut pas répondre sur les questions qui l'embêtent et que, voilà, donc nous allons passer aux délibérations. Monsieur Clapel, si vous
voulez. Non, je vous dis que ça ne m'embête pas, mais je ne veux pas répondre à ça sur M. Artigana.
Le grand-maire.